VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec et Bagassikoura.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du mercredi 20 mai 2015. À la une ce soir.
Eh bien, la crise au Burundi, un soldat a été tué par un tir de policiers à Bujumbura, des policiers qui tentaient de disperser des manifestants opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
Deux chefs djihadistes ont été tués dans le nord du Mali par les forces spéciales françaises. Un gardien d'une résidence de la MINUSMA à Bamako a par ailleurs été blessé par balle ce matin.
Et au Niger, le journaliste Moussa Changari, arrêté lundi pour collaboration avec les islamistes nigériens de Boko Haram.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Voilà, un soldat a été tué ce mercredi à Bujumbura par des tirs de policiers qui tentaient de disperser des manifestants opposés au troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza. C'est ce que nous rapporte l'AFP, citant des témoins et un soldat, Jacques Aristide.
L'incident s'est produit dans le quartier de Niakabiga, où l'armée et la police étaient positionnées en raison des protestations en cours. D'après un soldat, certains des policiers tiraient à hauteur d'homme. Son collègue militaire, dit-il, a été touché au cœur et c'est un policier qui a tiré, confie-t-il encore à l'AFP. Après le drame, les policiers ont dû quitter précipitamment les lieux face aux soldats furieux et se sont retirés à environ 1 km. Toujours selon l'AFP, plus de 2000 manifestants ont pris le contrôle de ce même quartier de la capitale. Ils ont érigé de nouvelles barricades et chanté des slogans anti-Nkurunziza comme « Nkurunziza ira à la haie ». Sous pression de la communauté internationale, la présidence burundaise a annoncé ce mercredi un report au 5 juin des élections communales et législatives, initialement prévues le 26 mai, et qui doivent marquer le début des élections générales.
Le ministre sud-soudanais de l'information a annoncé ce mercredi la reprise par l'armée de l'enclave rebelle de Lir dans l'état disputé d'unité. Cette zone où les forces gouvernementales ont commis de graves violations des droits de l'homme contre les civils en janvier 2014. Selon l'AFP, cette avancée intervient au terme d'une vaste offensive des forces gouvernementales lancée fin avril depuis la ville de Bentiu, capitale de l'état d'unité, qui a poussé plus de 650 000 personnes à la fuite face à l'avancée des combattants gouvernementaux qui violent, incendient villes et villages et pillent l'aide humanitaire.
Deux chefs djihadistes ont été tués dans le nord du Mali. D'après le ministère français de la Défense, Amada Ag Ama, alias Abdelkrim le Touareg, et Ibrahim Ag Inahalen, alias Bana, ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par les forces spéciales françaises. Les deux hommes sont parmi les principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et dans Sardine.
Et la mission de l'ONU au Mali, à nouveau la cible d'une attaque. Un gardien d'une résidence de la MINUSMA à Bamako a été blessé par balle ce matin.
Oui, c'est dans ce contexte que des consultations autour de l'accord de paix au Mali sont prévues dès lundi à Alger. C'est ce que rapporte la médiation internationale dans un communiqué reçu par l'AFP. Alors que les rebelles de la CMA n'ont pas signé l'accord, ces consultations visent à mettre en place les conditions du parachèvement du processus de signature. La médiation s'inquiète notamment de la situation à Menaka, ville du Nord, occupée par la plateforme représentant les groupes armés pro-gouvernementaux. La MINUSMA rappelle l'impérieuse nécessité du maintien du cessez-le-feu. Reportage de Boubacar Touré à Gao.
Les affrontements et les embuscades restent réguliers sur le terrain. C'est la ville de Menaka à 317 km de Gao au sud-est qui est au centre de préoccupation. En violation du cessez-le-feu censé être en vigueur en fin avril, les groupes armés de la plateforme proche de Bamako ont chassé le MNLA de la ville de Menaka qu'ils occupaient depuis mai 2014. Le Gatia et ses alliés refusent toujours de quitter la ville. Selon son secrétaire général Fard Ag Mahmoud, s'ils doivent quitter la ville de Menaka, il faut que ça soit conformément à l'application de l'accord du 15 mai et dans le sens du retour progressif des forces de sécurité du Mali. Plus au nord, dans la région de Kidal, les manifestations qui se tiennent depuis quelques jours affectent la fourniture du carburant pour les générateurs. Conséquence, les populations sont privées au jour d'aujourd'hui d'électricité. La mission onusienne souligne qu'elle concentre ses efforts en coopération étroite avec la médiation internationale et en tant que partenaire impartial de tous les Maliens pour faire avancer le processus de paix et pour protéger la population civile contre toute menace et répercussion directe ou indirecte résultant de la poursuite de la violence et des tensions. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Niger, le journaliste Moussa Tchangari a été arrêté lundi pour collaboration avec les islamistes. Responsable de l'ONG Alternative Espace Citoyen, il est très critique sur la situation humanitaire dans le sud-est du Niger, où l'armée nigérienne combat Boko Haram.
Et concernant Boko Haram, notons que l'Assemblée nationale tchadienne a voté en faveur d'une prolongation de l'intervention militaire contre les insurgés islamistes nigériens. La résolution a été votée par une large majorité des députés tchadiens.
J'ai été déçu, ce sont les mots du chef de l'opposition, Seydou Dalein Diallo, à l'issue de sa rencontre aujourd'hui avec le président guinéen Alpha Condé. Depuis plusieurs semaines, l'opposition réclame un report de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, ce que refuse catégoriquement le pouvoir. Salwa Jafari revient sur les dessous de ce désaccord.
Cela fait des semaines que la communauté internationale appelle à ce retour au dialogue. Un dialogue de sourds, à en croire les premières réactions de l'opposition. C'est moi seul qui ai parlé. J'ai été déçu qu'on n'ait pas d'échange. Je m'attendais à mieux que ça, a déclaré le chef de l'opposition, Seydou Dalein Diallo, à sa sortie. Alpha Condé m'a dit « Je suis là pour t'écouter, je vais confronter tes propositions et observations à celles de la mouvance et moi, en tant que président de la République, au-dessus de la mêlée, je prendrai une décision. » Au cœur de la discorde, la tenue des élections. Le président Condé insiste sur la tenue des élections présidentielles en octobre, avant la tenue des élections locales. L'opposition, de son côté, dénonce ce qu'elle décrit de ruse. Elle réclame la tenue des communales prévues en mars 2016, avant l'élection présidentielle, par crainte que le personnel communal, nommé par le pouvoir, n'influence le scrutin en faveur du régime en place. À travers la capitale Conakry, les partisans de Condé vendent déjà la victoire de leur leader. Un triomphalisme qui anime les esprits et provoque la colère de l'opposition, surtout que les dernières élections régionales ont eu lieu il y a une décennie. Une colère qui risque de monter d'un cran. L'opposition est déterminée à envoyer ses partisans dans les rues à travers le pays. Maintenant que le virus Ebola a fait moins de ravages, le militantisme a repris de la vigueur.
Chaloua Zafari. Au Bénin, l'opposant Adrien Mbédié a été élu à la tête du Parlement avec 42 voix sur les 83 que compte l'Assemblée nationale béninoise.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'Indonésie et la Malaisie ont décidé d'accorder un refuge provisoire aux milliers de migrants et victimes de trafiquants humains à bord de bateaux en perdition. Des précisions sur cette volte-face avec Timothée Donongmaï.
Cette percée a été annoncée aujourd'hui à la suite d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Malaisie, de l'Indonésie et de la Thaïlande qui étaient réticents à porter assistance aux migrants. La Thaïlande ne s'est pas associée à la proposition, son ministre des Affaires étrangères expliquant qu'il devait au préalable en référer à son gouvernement. Mais Jakarta et Kuala Lumpur se sont engagés à ne plus refouler les bateaux de ces migrants qui fuient la misère et les persécutions au moment où des centaines d'entre eux étaient à nouveau secourus par des pêcheurs indonésiens. Les trois pays avaient accueilli environ 3000 naufragés en quelques jours. Mais ils ont aussi refoulé plusieurs bateaux, s'attirant les foudres des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales. Les bateaux transportent des Bangladais qui veulent échapper à la pauvreté, ainsi que des membres de l'ethnie Rohingya, communauté musulmane persécutée et marginalisée, vivant pour l'essentiel en Birmanie, un pays largement bouddhiste qui a également paru assouplir sa position dans cette crise.
Voilà, nucléaire iranien, les inspecteurs internationaux n'auront pas accès aux installations scientifiques et militaires de l'Iran en vertu de tout accord sur le nucléaire avec les puissances mondiales. Cette déclaration a été faite ce mercredi par le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Il a également souligné que l'Iran ne cédera pas à des demandes excessives.
Et le président américain Barack Obama a réaffirmé le soutien de son gouvernement au premier ministre irakien pour une opération de reprise de Ramadi des mains des islamistes.
Et pour terminer, les responsables du renseignement américain ont rendu public une grande quantité de documents récupérés au cours du raid de 2011 sur la concession d'Oussama Ben Laden au Pakistan. Les forces spéciales américaines qui ont tué Ben Laden avaient à l'époque ramassé des documents, des ordinateurs et autres éléments de preuve au cours de ce raid.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Les prix à la consommation en Afrique du Sud ont augmenté de 4,5% sur un an en avril contre 4% en mars dans le sillage des prix des carburants répartis à la hausse depuis deux mois, a annoncé aujourd'hui l'Agence sud-africaine des statistiques. Malgré cela, l'inflation reste au plus bas dans le pays depuis 2011. La Banque de réserve sud-africaine, qui se donne un objectif d'inflation compris entre 3 et 6%, table sur une hausse des prix moyens de 4,8% cette année, puis 5,9% en 2016. Après 6,11% en 2014. Dakar vient d'abriter un forum foncier mondial. Constat, les détenteurs d'exploitations agricoles en Afrique perdent souvent leurs terres au profit des grandes entreprises. Il faut donc une sécurisation foncière, selon Frédéric Mousseau de l'Institut Oakland en Californie, spécialisé dans les questions d'accaparement des terres.
C'est un sujet très controversé parce que offrir des titres de propriété sur le système occidental revient à une privatisation des terres. Et pour beaucoup de mouvements paysans, la privatisation des terres, c'est aussi un risque demain d'avoir des paysans endettés.
La Chine a scellé mardi avec le Brésil un ambitieux plan d'investissement d'un potentiel de 50 milliards de dollars dans divers secteurs de l'économie. C'était lors d'une visite officielle à Brasilia du premier ministre chinois Li Keqiang. Le Brésil, 7e économie mondiale, est actuellement au bord de la récession et a besoin d'investir dans ses infrastructures défaillantes alors que sa propre capacité de financement est étouffée par son plan d'ajustement budgétaire.
Voilà pour la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est l'heure des sports. Bonsoir Timothée Dumamay.
Bonsoir Bagassi.
Voilà, refus de la Fédération internationale de football, de la Fédération palestinienne, pardon, de football, de retirer sa demande soumise au prochain congrès de la FIFA pour une suspension de la Fédération israélienne.
Et oui, Bagassi, les Palestiniens n'en démordent pas. Le chef de leur fédération de football, Djibril Radjoub, a fait savoir cette décision lors d'une conférence de presse aux côtés du président de la FIFA, Sepp Blatter, aujourd'hui. C'était à Al-Biré, près de Ramallah. Cette décision marque l'échec des efforts du président de la FIFA en vue de trouver un compromis. Les Palestiniens ont par ailleurs rejeté son idée d'un match entre leur sélection nationale et celle d'Israël, affirmant qu'Israël devait d'abord lever les restrictions imposées au football palestinien.
Comme quoi le football n'est pas immune de politique. Inquiétude de deux sponsors officiels de la FIFA concernant les conditions de travail des travailleurs migrants sur les chantiers de construction des stades du Mondial 2002, et c'est au Qatar.
Des Mondial 2022, vous voulez
2022,
dire,
Bagassi.
Alors oui, alors il s'agit de Coca-Cola et de Visa qui ont fait part de leurs inquiétudes aujourd'hui à la FIFA. Nous continuons à être troublés par les informations en provenance du Qatar liées à la Coupe du Monde et aux conditions de travail des migrants, a indiqué le groupe Visa dans un communiqué que cite l'AFP.
Meeting d'athlétisme de Pékin, comptant pour le World Challenge, l'Américain David Oliver a réalisé, Tim, la meilleure performance de l'année sur le 110 mètres haies.
Oliver a établi un chrono de 13 secondes 15 centièmes, la meilleure performance mondiale de l'année, donc sur ce 110 mètres haies. A noter que son compatriote, le sprinter Justin Gatlin, n'a pas participé à ce meeting de Pékin. Hier, il avait accusé les organisateurs chinois de l'avoir retiré du programme du meeting, le soupçonnant d'être blessé avant que son manager, Ronaldo Nehemia, ne confirme officiellement le forfait du sprinter quelques heures plus tard.
Et bien pour terminer, le basketball professionnel, la NBA, hier soir, les Golden State Warriors ont défait les Houston Rockets 110 à 106 en premier match team de la finale de la conférence Ouest hier soir à Oakland.
Et oui, Bagassi, les Warriors doivent une fière chandelle à Stephen Curry, auteur de 34 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, une furie à laquelle les Rockets n'ont pas su trouver de réponse. Cette finale se gagne au meilleur des 7 matchs, tout comme la finale de la conférence Est qui démarre ce soir entre Cleveland et Atlanta à Atlanta.
Voilà, merci Timothée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura et Morgane Guiriec en votre compagnie. Notre premier dossier ce soir, Bagassi.
C'est le Burundi où le président Pierre Nkurunziza a reporté au 5 juin les élections législatives et communales qui étaient prévues le 26 mai. Il a aussi prolongé la campagne électorale jusqu'au 2 juin. Idriss Fall a recueilli la réaction de Bonaventure Ngasutwa, il est député de l'opposition burundaise.
D'abord, le report des élections n'est pas une affaire d'un candidat. M. Nkurunziza, c'est un candidat. Il n'a pas à fixer les dates des élections auxquelles il est concurrent parmi tous les autres concurrents. Le calendrier électoral, en réalité, c'est une affaire de la Commission nationale indépendante chargée des élections. Donc, nous pensons que M. Nkurunziza est en train de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Ensuite, il dit que les élections sont reportées pour le 5 juin. Est-ce que d'ici le 5 juin, M. Nkurunziza peut nous assurer qu'il aura renoncé à son troisième mandat? Parce que la crise politique qui s'écoule au Burundi aujourd'hui est liée à son entêtement par rapport au troisième mandat. Est-ce que d'ici le 5 juin, il aura désarmé la milice Imbonerakure de son parti politique? Et cela est effectivement en violation de la loi, parce que la loi interdit à tout parti politique d'installer des milices. Est-ce que d'ici le 5, M. Nkurunziza peut nous rassurer qu'il aura ouvert toutes les radios privées qui sont fermées, seront réouvertes et qu'elles seront fonctionnelles pour qu'elles puissent jouer le rôle dans la campagne électorale? Parce qu'aujourd'hui, M. Nkurunziza est en train de faire la campagne tout seul, avec un seul médium, le médium d'un seul candidat. Cela n'est pas acceptable. On ne peut pas faire une campagne électorale avec un seul candidat qui dispose d'un médium.
Est-ce que vous allez participer quand même avec le report ou pas?
Comment peut-on participer à des élections avec un candidat qui est inconstitutionnel, qui est en violation de l'accord d'Arusha? Comment peut-on participer à des élections quand on ne peut pas faire la campagne? Est-ce qu'on peut faire une campagne dans une crise politique du genre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Il faut que la sécurité règne d'abord dans le pays pour qu'on puisse parler des élections. Et cela, ça doit être une question qui serait discutée entre tous les partenaires politiques. M. Nkurunziza ne peut pas s'enfermer dans son bureau aujourd'hui et décider que le calendrier électoral est tel ou tel. Il faut qu'on puisse en discuter.
Voilà, il faut qu'on puisse en discuter. Parole de Bonaventure Ngasutwa, il est opposant à Bujumbura.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan à nouveau sur la crise burundaise. Après le coup d'État avorté, appel au report des élections, une armée divisée face aux manifestations contre le président Nkurunziza, flux croissant de réfugiés vers les pays voisins. Faut-il craindre le pire pour le Burundi? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Les dirigeants de la CDAO ont rejeté hier une proposition visant à imposer une limite au nombre de mandats présidentiels au plan régional. La proposition a été discutée à Accra lors de la 47e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Le Togo et la Gambie, qui se sont d'emblée opposés à la proposition lors des débats, sont les seuls membres qui ne limitent pas à deux le nombre de mandats présidentiels. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint Magloire Kouakouvi, professeur à l'université de Lomé au Togo.
C'est une mauvaise acceptation de la modernité, parce qu'on ne peut pas dire que dans nos us et coutumes, il n'y a pas la reddition de comptes. Il y a la reddition de comptes, mais dire qu'on va avoir des présidents à vie, ça n'a aucun sens sur le plan de la modernité. Je pense qu'il y a beaucoup de corruption qui sont à la base de certaines décisions, parce que je ne pense pas que si l'on passait cette décision au vote pour la population, ce serait le mandat illimité qui serait accepté.
Comment explique-t-on le fait finalement que ce soit les chefs d'État eux-mêmes qui prennent ce type de décision pour eux-mêmes?
Comme a dit quelqu'un en Afrique, la politique c'est le plus court moyen de s'enrichir, parce qu'il n'y a aucun contrôle du peuple sur l'enrichissement du président de la République. Donc, pour peu que les pays aient des atouts qui permettent de ramasser de l'argent sans rendre compte à qui que ce soit, on peut décider de rester en place à vie.
Selon vous, quel signal envoie la CEDEAO avec ce type de décision finalement aux autres organismes régionaux africains?
Non, je pense que ça ne tiendra pas la route, parce que les peuples ne sont pas dupes de la situation. Le Burkina Faso fait partie de la CEDEAO, le Bénin fait partie de la CEDEAO, et je ne crois pas que les peuples béninois, sénégalais et burkinabais soient d'accord pour que le mandat présidentiel ne soit plus limité.
Est-ce qu'au Togo, on regarde de près ce qui se passe au Burundi en parlant de mandat présidentiel?
Oui, nous avons tout fait pour que au Togo, depuis 2006, on applique l'accord politique global qui revenait sur la limitation de mandat, l'article 59 de notre constitution de 1992. Mais le parti au pouvoir a tout fait pour laisser de côté cette réforme-là, accorder un troisième mandat au président de la République, laisser les réformes constitutionnelles et institutionnelles à perte et profit.
Voilà, c'était le professeur Magloire Kouakouvi, président de la commission épiscopale Justice et Paix.
Et un des nouveaux entrants au Parlement de la CEDEAO, Morgan, est un ancien seigneur de guerre responsable de nombreuses atrocités en Afrique de l'Ouest. Pendant la guerre civile libérienne, dans les années 90, le sénateur libérien Prince Johnson était connu comme un chef rebelle très violent. Il aurait tué par torture l'ancien chef d'État libérien Samuel Doe. Il a été aussi cité plusieurs fois dans l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso. Pour en savoir un peu plus sur l'homme, nous avons joint Alioune Tine d'Amnesty International à Dakar.
Pour ceux quand même qui ont suivi le conflit armé entre 89 et 2003, où il y a eu près de 250 000 morts, mais sa responsabilité en tant que chef de guerre a été engagée, et je dirais lourdement engagée, tout le monde le sait, engagée également sa responsabilité dans la mort atroce de Samuel Doué. Et on n'a pas fini. Même dans l'assassinat de Thomas Sankara, on a cité son nom. Alors, très sincèrement, c'est quand même un très mauvais signal qu'on envoie aux citoyens ouest-africains avec son élection à la CEDEAO. Et ça va être très certainement un coup sérieux porté à la crédibilité de cette institution. Nous sommes tous étonnés de cela.
Et même s'il s'est converti à la démocratie et qu'il a déposé les armes depuis?
Je dirais même s'il s'est converti à la démocratie et même à la chrétienté, hein, parce que aussi sa conversion est bien opportuniste. On sait les raisons pour lesquelles il n'a pas soutenu William Tubman, l'opposant, parce que celui-ci effectivement prévoyait appliquer les recommandations de la commission Vérité et Réconciliation. Et si effectivement c'était recommandé, mais il serait jugé pour les crimes abominables, les crimes internationaux, imprescriptibles qu'il a commis. Et en réalité, au lieu qu'il soit jugé par les États, parce que c'est ça qu'on attend des États de la CEDEAO, maintenant il est, comment dirais-je, parlementaire. Ça ne doit pas être flatteur pour ses autres collègues.
Alors, s'il a pu commettre tous ces crimes, comment est-ce qu'il se retrouve là? Est-ce qu'il a bénéficié de l'amnistie?
Mais écoutez, c'est un peu une façon de blanchir les anciens criminels de guerre, hein, parce que c'est un tout petit peu un chantage à la paix, à la stabilité, qui fait que, on pense que vraiment, en l'élisant, Monemba est un seigneur de guerre. Lui-même, il dit que les gens sont sous mon parapluie. Pour être élu aussi, ça amène des compromissions de cette nature, alors que tous les deux candidats auraient dû avoir au moins un consensus sur le règlement de l'impunité, être intransigeant sur le traitement de l'impunité.
Voilà, c'était Alioune Tine d'Amnesty International à Dakar.
Cap sur le Bénin, les députés ont élu le bureau de l'Assemblée nationale ce matin. Le suspense aura duré jusqu'au bout, mais à l'arrivée, c'est l'opposition qui s'en tire avec 6 postes sur 7. Ce bureau est dirigé par Maître Adrien Oumbeji du Parti du Renouveau démocratique qui a réussi à rassembler toutes les forces de l'opposition. De Cotonou, le reportage de Peggy Ludovic Dagba.
Le bureau de la 7e législature, qui a pris fonction le 16 mai dernier, est désormais connu. Par un score très serré, le candidat de l'opposition, Maître Adrien Oumbeji, arrache le pouvoir avec 42 voix contre 41 pour son challenger, Kome Kouché, solidement soutenu par la mouvance présidentielle. C'est donc tout naturel que l'heureux élu, qui retrouve pour la 3e fois le perchoir depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, déborde de joie.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans le verdict des urnes, des élections législatives a été concrétisée aujourd'hui par le verdict des votes sortis des urnes des députés. Pour une fois, il y a conformité entre les suffrages des électeurs béninois et les suffrages des députés.
Pour le perdant, autant ne pas parler de défaite, puisque c'est la toute première fois qu'il tente une expérience du genre et tout doit être fait pour l'unité du pays. Kome Kouché.
Nous sommes allés à une élection. Nécessairement, quelqu'un devait remporter et quelqu'un devrait perdre. Ici, je ne considère même pas que quelqu'un a remporté, que quelqu'un a perdu. Notre démocratie a gagné. Et donc, je voudrais inviter les uns et les autres au calme, à se dire que la démocratie s'est exprimée. Nous sommes allés aux élections, nous avons eu 41 voix. Notre Adrien Oumbeji a eu 42 voix. Il devient président de l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est un coup d'essai.
La tâche aura été ardue pour les députés qui sont restés jusqu'au petit matin pour élire le bureau. Et l'issue, qui n'était pas si évidente que ça, réjouit certains représentants du peuple. Luc Katropo, Joseph Diogbénon, tous deux députés.
Les deux élections présidentielles passées, le président Oumbeji a été toutes les fois deuxième. Je pense que son élection aujourd'hui qu'on pourrait rassembler, le consoler, si j'ai pu parler ainsi. Je pense que nous pouvons lui faire confiance.
Nous venons de poser la première pierre de ce que l'on peut appeler la remontée, de ce que l'on peut appeler le relèvement de la dignité, de ce que l'on peut appeler la reconstruction du Bénin. Et je souhaite que cette pierre soit accompagnée d'autres, de nombreuses autres, que nous puissions être davantage fiers d'être béninois. Je pense que le président Oumbeji est la meilleure personne, la mieux à même, par les temps que nous sommes en train de rencontrer, de nous aider à aller de l'avant.
Au sein de la population de la capitale béninoise, c'était la joie à peine contenue. Certains sont restés dans la rue toute la nuit pour la délivrance. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Cette édition touche à sa fin. À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagnot. Présentation, Morgan Guiriec et Bagassi Koura.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Les infos, c'est dans moins d'une minute.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.